The way things are isn't the way they have to be.
But knowing what to challenge and how to change it isn't always clear.
That's why independent journalism has never mattered more.
When we are free to follow any lead
and question any authority,
we can confront the status quo,
uncover vital alternatives,
and bring clarity to the world's most complex issues.
We can help our readers understand the world.
So together, we can fight for a better one. Hope is power.
And with your support,
you'll always find it
at The Guardian.
Vous écoutez RMC.
Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
RMC.
Vous comprenez ce que je veux dire ?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous. L'After est là comme tous les soirs de la semaine, jusqu'à minuit à la radio, sur RMC, à la télé, sur RMC Sport News. L'After, la seule émission en direct à la radio française, 7 jours sur 7. Casting du soir. Bonsoir, Ludovic Obraniak.
Salut à tous.
Ça va?
Ouais, impeccable.
Bien. Daniel Riolo est avec nous pour débriefer ce match. Salut, Daniel. Bonsoir, les amis. Islande-France au sommaire, bien sûr, ce soir. Les trois points à venir de Ludo et de Daniel. Vous avez trouvé trois points, les gars?
Ça a été très dur.
Compliqué, non?
Mais heureusement, là, que tu nous as un peu sauvés.
L'évaluation également. Ouais, il y a une grosse actu, en fait. On va pas vous mentir. On a un œil sur les chaînes infos.
Ah, il faut bien avouer quand même que la plupart, enfin, c'était quoi? On l'a su à peu près quand?
20h50, 55, ouais.
Ouais. Donc,
on parle de Xavier Dupont du Ligonnès, évidemment.
L'arrestation de Ligonnès m'a absolument passionné, évidemment.
A phagocyté ce match.
Et le match est passé au second plan pour moi. Mais j'ai trois points quand même. J'ai trois points.
On y vient. L'Angleterre.
Trois points.
On les fait dans un instant.
Ah d'accord, pardon.
Julien Laurence est avec nous. Dans un instant, bien sûr, pour évoquer le match de l'Angleterre. C'est pas terminé encore. L'Angleterre est menée 2-1 face à la République tchèque. L'actu lyonnaise, blanc à Lyon. Nouveau rendez-vous ce soir. Négociation en cours pour la composition du staff de Laurent Blanc. Vous allez voir qu'il a choisi ses hommes. Mais est-ce qu'il peut travailler avec les hommes en place? C'est la grande question également pour Laurent Blanc. On en parle dans un instant, bien sûr. Et puis également au programme de l'After ce soir, des déclarations de André Villas-Boas. Intéressante sur le mercato hivernal marseillais. Vous allez voir, spot à Marseillais, soyez inquiets. Appelez-nous 32-16 également. Déclaration extrêmement claire du coach de l'OM. Et puis un jeu ce soir, des places à gagner. On vous offre votre pack Ligue des Champions avec vos places Paris Saint-Germain, FC Bruges et Paris Saint-Germain, Galatasaray. Pour emporter vos places, rien de plus simple, restez à l'écoute des RMC et dès que vous entendez le signal sonore suivant. Envoyez foot au 7-32-16. Envoyez foot au 7-32-16. C'est parti, jingle, 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Et la victoire donc de l'équipe de France, 1-0 en Islande, grâce à un but d'Olivier Giroud, ce penalty à la 66e minute. Ludo, tes 3 points.
Bah, premier point, l'important, c'est les 3 points.
Hein. Vous l'avez jamais fait, là, je crois, non?
Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? On s'offre une balle de match contre les Turcs dans quelques jours. Donc, ça, c'est la seule satisfaction, on va dire, de la soirée. Mon deuxième point est, pour ne pas enfoncer totalement l'équipe de France, c'est qu'il faut être deux pour faire un bon match et que j'ai vu quand même une équipe d'Islande particulièrement décevante. Mon troisième point est concerne une expression qui dit que les absents ont toujours tort. Ah. C'est pas l'impression que
donc
j'ai
là, ils ont raison,
eu. Bah là ouais, même sans être là, sans jouer, ils ont tous eu raison.
Mbappé, Kanté, Pogba notamment.
Bah oui, forcément, personne ne revient remettre en cause cette hiérarchie là. Et puis peut-on se satisfaire de ce qu'on a vu ce soir? J'arrive plus à me positionner par rapport à l'équipe de France. Je sais pas si je dois être content qu'on ait gagné parce qu'on ou si je dois mettre en avant le fait que je sois particulièrement déçu parce que j'ai vu. Je sais plus comment me positionner.
Daniel.
Comme Ludo, le premier point, c'est forcément le résultat parce qu'il n'y a rien d'autre. Le deuxième point, c'est l'ennui. Et le troisième point, un appel à témoins. J'aimerais que les gens qui ont passé une bonne soirée devant ce match puissent nous téléphoner, nous expliquer pourquoi ils ont passé une bonne soirée, ou si, comme moi, comme beaucoup, eh bien, les gens se sont fait chier. Maintenant, Ludo, pour répondre directement à la question que tu as posée juste avant la Coupe du Monde, on s'ennuyait de la même façon.
Et pendant la Coupe du Monde, le début de la Coupe du Monde aussi.
De la même façon. Après la Coupe du Monde, de la même façon. Donc tu iras à l'Euro de la même façon. Et tu as toutes tes chances à l'Euro. puisque au début de la Coupe du Monde, moi, j'étais dans le camp de ceux qui pensaient qu'on ne pouvait pas gagner une Coupe du Monde comme ça. Les Bleus m'ont donné tort, Deschamps m'a donné tort. Donc maintenant, je suis obligé.
Est-ce qu'on peut gagner comme ça sur la continuité ?
Je n'en sais rien. En tout cas, je ne me risquerai pas à imaginer que ce n'est pas possible, puisque on m'a démontré que c'était possible. En jouant avec, dans le football en plus, comme tu le vois aujourd'hui dans les autres sélections, dans les clubs, on peut gagner une Coupe du Monde avec 8 joueurs défensifs sur le terrain. Eh ben ok, alors c'est possible. En jouant comme la France a joué ce soir, c'est possible. Alors effectivement, on me dira que si Mbappé rentre, c'est mieux, mais Mbappé va prendre la place de Coman, qui est
un joueur. Ça va pas changer le profil de l'équipe de France.
Ça changera pas grand chose. Pogba prendra la place de qui? De Sissoko.
Tolisso.
Mais quel Pogba? Oui. Le Pogba qui joue depuis la Coupe du Monde, mais effectivement, on peut me dire qu'avec un stage de préparation avec les Bleus pendant un mois avant l'Euro, avant la Coupe du Monde, Pogba, il était pas bon. Hein. Oui. Il était pas bon du tout. Et à la Coupe du Monde, révélation, non seulement patron, mais en plus, je suis bon. Donc, en fait, la dernière Coupe du Monde nous a tellement montré que la continuité, ça ne veut rien dire, que les schémas tactiques préparés à l'avance, ça ne veut rien dire, que le niveau des joueurs dans l'année qui précède, ça ne veut rien dire, que t'es obligé de regarder le match des Bleus. Enfin, obligé. Nous, on est obligé, ça fait partie de notre travail. Pour les gens, moi, je leur conseillerais de faire autre chose. Franchement, ça sert à rien, c'est l'ennui absolu. Ne regardez même plus le match de l'équipe de France parce que vous vous faites chier. Attendez l'Euro et puis vous vibrerez à l'Euro. Ça marche. Il n'y a pas de raison d'en douter. Il ne faut pas en douter.
Bon, alors, les adversaires étaient quand même assez ridicules sur la dernière sélection. Mais on avait vu au moins, il y avait du mieux. Et on n'est pas dans cette continuité-là, tu vois. Et même quand je vois le 11 de départ sur le papier, en tant qu'équipe championne du monde, honnêtement, je ne rêve plus quand je vois cette équipe.
Je te pose la question. Est-ce que tu as rêvé déjà? Je te pose la question. Est-ce que j'ai rêvé deux semaines en Russie, les deux dernières?
Bah, certainement, oui, forcément.
Sur les 6 ans de Deschamps et de l'équipe de France.
L'équipe de France, ça doit être, alors, est-ce que j'ai rêvé quand je vois le 11, les noms qui sont posés sur la feuille? Oui, j'ai déjà été amené à être au moins bercé d'illusions, on va dire. Mais là, franchement, même quand je vois le 11 de départ, si j'avais déjà pas envie de regarder le match dès le départ, quoi. Tu savais déjà vers quoi tu allais tenir, parce que finalement cette équipe, elle n'est que le reflet, la prestation collective, elle n'est que le reflet des prestations individuelles du moment. Regarde combien de joueurs dans cette équipe. Celui qui fait peut-être le plus gros match ce soir, c'est Matuidi. C'est le seul quasiment à être en forme avec quelques joueurs du Bayern qui jouent actuellement. Digne, c'est 18e avec Everton actuellement. Pavard, il joue au Bayern, donc bon, je reste tout le
on
temps.
On fera après l'évaluation.
Je reste mitigé, mais
c'est pas des défenseurs.
Sissoko en difficulté à Tottenham.
En fait, il y a pas. Ouais. Mais de toute façon, encore une fois, moi, je suis désolé. Jusqu'à l'Euro, ça va. Il reste pas trop de temps et trop de matchs des Bleus pour en parler. Mais j'ai bien peur de ne absolument pas varier de discours jusque-là. Je n'attends absolument rien. Je sais qu'il n'y aura pas d'animation offensive qui sera préparée. Je sais que rien n'avancera et qu'il faudra aller à l'Euro avec l'espoir que ça se passe comme à la Coupe du Monde.
Il faudra espérer qu'on ait la patte gauche de Griezmann pour nous débloquer.
Mais bien sûr. Mais comment veux-tu, quand tu as été champion du monde comme ça, si tu récupères tous tes hommes, quand tu as un bloc défensif aussi fort que tu es capable de le construire, puisque tu vas mettre 4 plus 3, au moins minimum 7 mecs, mais ne pas croire que devant, après, Griezmann, Mbappé vont pouvoir te faire une gifle.
Je peux pas croire que Didier Deschamps.
Les autres équipes, de toute façon, elles ne sont pas beaucoup plus rodées.
Je peux pas croire que Didier Deschamps puisse avoir un esprit aussi étriqué. C'est-à-dire de se dire, on a fait comme ça, on continuera comme ça.
Ludo, il l'a eu toute sa vie, il va pas changer maintenant.
Ça a marché partout où il est passé.
Il n'a pas eu une autre fois.
Est-ce que ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a réussi beaucoup de fois, mais est-ce qu'il a réussi sur la durée? Ce qu'il a fait.
Ah, mais il a réussi à le cumuler, en tout cas.
À le cumuler, mais avec à chaque fois des équipes différentes.
Ah oui,
avec la même équipe sur la durée.
D'accord.
Est-ce que même dans l'histoire, est-ce que dans les dernières années, dans les dernières compétitions, est-ce qu'une équipe proposant un jeu exigeant, une efficacité redoutable?
Non, mais bien sûr que non. Ouais. Ludo, même si tu joues super bien, en termes de proba, simple, sachant les aléas d'un match et tout, je suis pas très fort en maths, mais vous avez raison, non, juste comme ça. De toute façon, même si t'avais une super animation offensive des joueurs, t'étais pas sûr de le gagner, l'Euro.
Non, mais t'as la concurrence, t'as plus de chance.
Donc, à la place de Deschamps, comme de toute façon, tu n'as jamais joué autrement, tu n'as jamais travaillé autrement. toute ta vie a été construite sportivement de cette façon. Si tu te plantes à l'Euro, vu que tu as gagné la Coupe du Monde, ton échec, il sera relativisé. Tu resteras un homme de succès et ta carrière, elle sera de toute façon extrêmement positive. Après, les débats, le jeu, le beau jeu, le machin, ça reste des trucs pour nous, ça. Pour le grand public, c'est du bidon. L'équipe de France, moi, je dis toujours, on est à peu près 1 ou 2 millions à complètement aimer le foot et à parler de jeu.
Oui, alors,
et l'équipe de France, après, elle fait 15 millions pendant la Coupe du Monde de l'Euro. Et donc, tu as 13 millions de personnes qui en ont rien à cirer de nos débats et de nos analyses. Nous, c'est la Ligue des Champions qui est regardée par 2 millions de personnes, la Ligue 1, machin. C'est complètement différent, l'équipe de France.
Regardez.
C'est une sorte de patrimoine. T'en as rien. Les gens ensuite n'en ont rien à cirer de comment ça joue. Moi, je le sais parce que j'ai voulu voir le foot comme ça jusqu'à la Coupe du Monde. Je me suis planté. Il faut pas le regarder comme ça. Voilà.
Je crois qu'il faut accepter de fataliste, peut-être. Tant que Deschamps sera là,
il faut se faire chier.
Je sais pas si j'ai envie de le regarder comme ça.
Mais tu regardes autre chose en même temps. Moi, ce soir, j'ai regardé Dupont de Ligonnès, moi.
Bah, tu vois, il y a Max, son 2610 sur Direct Studio qui nous dit, pour ma part, pas vraiment regarder le match d'un ennui terrible. J'ai passé mon temps sur Le Bon Coin pour trouver un véhicule. Ouais, par exemple, tu vois.
On peut trouver des voitures sur Le Bon Coin?
Tout, des maisons, des appartements, tout.
Donc, moi, j'ai deux raquettes à vendre.
J'ai vendu deux raquettes sur Le Bon Coin l'an dernier.
Non, mais moi, elles sont neuves. Elles sont en très bon état et tout, si ça
intéresse. Tu as baissé le prix un petit peu, quand même.
Non, mais évidemment que je baisse le prix, mais je savais pas que je pouvais
aller. Tu peux y aller.
Je peux sur Le Bon Coin, dans
le dernier. J'ai vendu deux raquettes, l'an dernier, sur Le Bon Coin.
Tu peux tout trouver.
J'ai vendu un appartement sur Le Bon Coin il y a un mois.
N'importe quoi.
Je te jure, c'est vrai, Daniel.
Je te jure que c'est vrai. Tu peux trouver des appartements.
J'ai vendu mon appartement il y a un mois sur Le Bon Coin.
Ah, mais ça fait combien de temps que t'as pas été sur
Reynald. Tiens, Reynald qui est le prénom.
Moi, il y a un mois, j'ai essayé de vendre un meuble. Personne m'a contacté.
Faisons parler les auditeurs.
Mais non, personne m'a contacté, je te jure. Tout le monde me disait, ouais, c'est génial, Le Bon Coin, tu vends et tout. C'est la première fois que j'essayais.
Reynald, on s'égare. Tiens, Reynald qui est le prénom d'un homme qui aime le beau jeu, en revanche. Salut, Reynald.
J'aime le beau jeu.
Bon, t'as fait quoi ce soir? T'étais sur quoi? Sur une application de rencontre? Sur un site de rencontre en ligne? T'étais sur
Dupont de Ligonnès?
Ah ouais, non, moi déjà bonjour Nico, bonjour Ludo, puis bonjour à mon père spirituel, Daniel.
Salut.
Père spirituel.
Ah merci.
Je bois tes paroles, bref, vraiment, je me retrouve toujours dans ce que tu dis, et voilà. Et dans ce que tu viens de dire qu'on est à 15 millions, qu'on gagne la Coupe du Monde, et bah, de 15 millions, dont 13 millions de footiques, c'est 2 millions qui suivent vraiment le foot, ben ouais, je te suis, c'est ça. C'est ça la réalité du foot en France, mais bon, c'est un autre débat. Moi, je bosse un peu dans le marketing, et puis, en marketing, on parle de promesses clients, quoi. Donc, moi, je me suis posé dans mon canapé avec mon gars. Une lourde semaine de boulot, j'attendais rien de ce match, en fait, quoi. J'attendais rien de ce match, je voulais le regarder avec mon œil un petit peu d'éducateur, d'entraîneur de foot, regarder un petit peu ce qui se passait, mais j'attendais vraiment rien de ce match, donc oui, j'ai pas vibré. Et puis, je dois mon passage à l'antenne, en fait, parce que, en première mi-temps, quand j'ai vu la non-main siffler, j'ai envoyé un petit tweet sur RMC Live en disant ça pue le match de district et ça sent la compensation en deuxième. comme quand j'étais amateur avec notre coach de Régional 3 nous disait les gars, la prochaine fois pour jouer dans la surface ça va être sifflé. Et bingo, j'ai posté ça à 21h20 et puis une heure après c'est ce qui se passait, quoi. Non, pas d'intérêt.
Mais qu'est-ce que tu as dans les dis-moi toi, parce que tu suis l'équipe de France mois après mois, les qualifs, les euros, les coupes du monde. Est-ce que tu attends encore quelque chose de Deschamps? C'est la question. Est-ce que tu espères quelque chose un jour, une évolution sensible dans sa façon de penser le football?
Il t'a offert un titre de champion du monde.
Quand défensif au milieu, c'est Griezmann, tu te dis merde quoi. Enfin, il a fait un bon match Griezmann défensivement. Hein. Il a bien épaulé Matuidi, quoi.
Il a très bien fini d'ailleurs. Il a été inexistant en première période. Je l'ai trouvé transparent, mais sur la deuxième période, je trouve qu'il est monté de
dans les efforts défensivement.
Défensivement. Mais c'est ce qu'il adore faire. Il a toujours dit qu'il adorait ça. Griezmann, dans toutes les interviews post-Coupe du Monde, disait qu'il adorait ce jeu, qu'il adorait jouer comme ça, qu'il adorait l'Atlético. Mais le mec, il a signé au Barça. Ça, c'est toute la contradiction de tous ceux qui nous disent tout le temps que peu importe la manière, l'important, c'est de gagner. Sauf que quand ils ont l'occasion de faire autrement, bizarrement, ils choisissent de faire autrement. C'est quand même très bizarre. Et ça sent la faucurie générale.
Reynald, reste avec nous au 32-16. Didier nous attend également au 32-16. Ça appelle beaucoup au standard pour se plaindre du spectacle ce soir. Malgré la victoire de l'équipe de France 1-0, il y a aussi des réactions à l'inverse. Messieurs, vous voulez quoi? 10-0 à chaque match? J'ai vu Portugal-Luxembourg d'un triste, alors arrêtez de vous plaindre. Voilà ce qu'on nous dit également. A tout de suite avec Ludo Bragnac et Daniel Riolo.
RMC, l'Afterfoot. RMC, l'Afterfoot. Nicolas Jamain.
Avec Daniel Riolo, avec Ludovico Bragnac, on est ensemble jusqu'à minuit, bien sûr, à la télé sur RMC Sport News, à la radio sur RMC. Messieurs, comme un point classement, la Turquie a gagné ce soir 1-0.
Donc deux fois qu'ils passent ric-rac, hein, les Turcs. Hein.
Ric-rac ou ric-rac ?
Ric-rac.
La Turquie est en tête avec 18 points, grâce à sa différence de but particulière favorable par rapport à la France. La France deuxième, 18 points. Lundi soir, c'est la finale du groupe. Et le vainqueur du match sera qualifié pour l'Euro 2020. Voilà. Donc, c'est au moins l'intérêt de ce match-là au Stade de France. Gros dispositif de sécurité. On en parlera dans un instant, bien sûr. Rénal, toujours avec nous, bien sûr. Didier, arrive également dans un instant. On va parler d'Olivier Giroud aussi. Ça fait beaucoup réagir au Standard. Ça explose. Il y a un débat au Standard Giroud. Oui ou non, stop ou encore. Pourtant, il marque ce soir encore une fois, Olivier Giroud. Certes, sur penalty. 37e but cette saison. Rénal, tu voulais rajouter un mot?
Ben, pendant la pause, ça m'a permis de réfléchir un petit peu aussi à tout ça. Et moi, je me pose aussi quand même beaucoup de questions sur ce foot des nations, ce foot des pays, quoi. Moi, j'ai 40 ans dans deux semaines. Je me souviens qu'avant, les seuls matchs qui me faisaient vibrer, c'était les matchs de l'équipe de France. On attendait ça, on vibrait. Et là, on s'en rend compte, finalement, comme disait Daniel, qu'on ne vibre plus que sur les gros événements. Le foot des clubs a pris le dessus. On vibre sur les. Moi, je vibre plus sur un match de poule de Champions League que sur ce que j'ai vu ce soir. Alors du coup, il y a beaucoup de questions aussi à se poser là-dessus, quoi.
Je sais pas, je vous pose la question, messieurs, depuis quand on vibre plus sur une période avec l'équipe de France?
Mais à la Coupe
du Monde. Sous Laurent Blanc, on vibrait plus? Oui, mais t'as les deux semaines de la Coupe du Monde.
Sous
Domenech, on vibrait pas? Enfin, quand est-ce qu'on a vibré?
À la Coupe du Monde.
Si, on vibre sur les grands événements.
T'es champion du monde. T'es champion du monde, Nico. Ouais. N'oublie pas, c'est marrant que la mémoire...
C'est du spectacle, Daniel. Non, mais c'est pas esthétique. Non,
mais le gars qui te dit ça est celui qui a probablement le plus critiqué le jeu de l'équipe de France, qui a soutenu que c'était le champion du monde le plus moche de l'histoire, qui s'est fait insulter pendant des semaines, des mois pour avoir dit ça. Qu'est-ce que tu veux à partir du moment où le foot des nations est devenu effectivement bien moins intéressant que le foot des clubs qu'on suit, notamment la Ligue des Champions, qui nous en met plein les yeux, qui est le laboratoire du jeu, la vitrine des stars du jeu. Le foot des nations, oui, c'est terriblement appauvri, pas qu'en France d'ailleurs, il faut être honnête. Il y a pas énormément d'équipes qui aujourd'hui, bon, c'est quand même mieux, hein, quand tu regardes le Allemagne-Pays-Bas qu'on a vu récemment, c'était extraordinaire. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent mieux que la France, mais la France, elle est championne du monde en titre et ça fait à peine plus d'un an.
Et de toute
aujourd'hui, j'en reviens, moi, regardez, en même temps que nous, là, ce soir, il y a sur TF1 qui va être regardé par
Daniel Riolo,
au moins
TF1, d'ailleurs.
50 fois plus de personnes que nous, minimum, que ce que nous, on est en train de se dire là. Sur TF1, il y a un doc sur Deschamps glorifié.
Bon, tisse pas trop non plus le truc.
Non mais
reste avec nous.
La gloire, c'est fait par son meilleur ami.
Si vous voulez la vérité, c'est ici. Hein.
C'est avec, tu vois. Donc le grand public.
Parce que Daniel, TF1 vend l'équipe de France. TF1
évidemment.
L'équipe de voilà.
Mais
c'est... Donc.
Ouais, mais c'est quand même un bien de consommation, un bien marketing.
Mais tu vois, ce doc,
c'est un bien d'État. Hein,
donc
public,
ce doc, je suis
de
dedans à l'instar de.
Tu dis quoi dans ce doc,
à l'instar de énormément d'autres journalistes. Et je crois que dans un premier temps. De la même façon, je crois savoir que Pierre Ménès a eu la même réaction que moi, que d'autres. On m'a dit, mais à quoi bon? En tout cas, pour ma part, je parle pour moi. Quand on m'a proposé, est-ce que tu veux intervenir? J'ai dit, bah, à quoi bon? Ça va être diffusé sur TF1 et ça va être réalisé par le meilleur ami du sélectionneur. Et on m'a convaincu en me disant, ben ouais, mais au moins il y aura des voix comme ça, un peu discordantes et tout.
Ouais.
Après tout, moi je suis journaliste. Refuser de s'exprimer, c'est pas, tu vois, par exemple, Dugas, qui n'est pas journaliste, a refusé de s'exprimer dedans.
C'est une tribune.
Zidane ne s'est pas exprimé dedans. Il y a énormément de gens qui, au final, n'ont pas parlé dedans, n'ont pas voulu parler dans le doc de Deschamps.
Mais sur les extraits, il y a quand même des choses qui confirment un peu ce qu'on voit aujourd'hui. C'est que,
sauf que le montage, tu vois, je suis pas en train de le regarder, mais le montage, je le maîtrise pas. Savoir quel bout ils auront pris, de quelle façon Deschamps répond. Déjà, moi, je ne savais pas que c'était la forme, que c'était, en gros, nous, on parlait et Deschamps nous répondait.
Le montage.
Donc, déjà, tu ne sais pas comment c'est présenté.
Le montage va tourner en sa faveur, forcément.
Non, mais évidemment. Mais tu vois, tu y vas parce que tu as envie d'apporter une contradiction et de parler. Mais la façon dont c'est rendu, déjà, moi, si je regarde d'un œil sans le son, savoir que Deschamps répond. Savoir que Deschamps répond.
À partir du moment où tu l'as pas en face de toi pour débattre, c'est bien sûr.
C'est mort. Et là, déjà, je regrette d'y être, de l'avoir fait.
C'est pas terrible. On va se mettre d'accord, c'est pas un travail journalistique.
Voilà. Et non, travail de communication, de marketing, fait par son ami, pour TF1, diffuseur de l'équipe de France.
Et vendeur de l'équipe de France.
Et vendeur de l'équipe de France avec les partenaires, les sponsors.
Ça vaut combien un droit de retransmission de l'équipe de France comme ça? Parce que quand on est vrai spécialiste du foot, moi, clairement, je vous dis, là, je me pose là parce que j'ai rien d'autre. Ma copine râlait parce qu'il n'y avait pas The Voice Kids, il n'y avait pas The Voice Kids ce soir et que sa fille râlait, quoi. Mais globalement, on sait très bien qu'on vit, comme disait Daniel, je te suis à 100% sur le côté laboratoire du foot. Enfin, là, on n'a rien appris. On a regardé autre chose qu'un simple divertissement, mais bon, bref, c'était triste à mourir.
Merci. Bon. Mais après, merci Rénal.
Salut Rénal, excellente soirée à toi.
Didier Varie aussi. Salut, ciao. Comme vous êtes, c'est super.
Après, c'est depuis la nuit des temps que ça existe. Il y a deux écoles qui s'opposent clairement. L'école du pragmatisme.
Résultatiste, et
le résultat qui compte. Et puis l'école de la manière. Moi, je suis plutôt de l'école de la manière qui pense que plus la manière est bonne, et plus tu as de chances d'accéder à un résultat. Et en plus, sur la durée.
L'Espagne en est la preuve contemporaine et trois titres consécutifs.
Mais pour revenir à ce documentaire.
Arrêtez de teaser, les gars.
Non, mais on s'en fout, on va en parler. Ce qui est quand même. Le résultat de ce soir, il est mis en lumière si vous regardez cette émission de dimanche. Les questions qui sont posées, la réponse est à chaque fois la même, c'est on est d'une efficacité redoutable. Point. Il y a rien d'autre qui intéresse.
Oui. Mais d'ailleurs, c'est le sens des propos sur le direct studio de MC Pato qui nous dit, monsieur, vous êtes dur avec l'équipe de France car beaucoup d'absents et de méformes des joueurs français en club. Donc, une équipe de France bis avec un manque d'automatisme, criant une obligation de résultat et du coup, la fin justifie les moyens. Bravo aux Bleus pour cette victoire loin d'être évidente. Didier, au 32-16, nous a appelé. Salut Didier.
Oui, bonsoir Nicolas, bonsoir Ludo, bravo pour ta carrière.
Merci.
Et puis bonsoir Daniel et bravo pour tes bouquins, notamment Racaille Football Club, bravo.
Merci. Dis-moi, résultatiste,
hein, parce que j'ai regardé la 2 avec Cécile Bois, c'était très bien le feuilleton, parce que je savais déjà ce qui allait se passer. Et moi, en fait, ce qui me suffit, c'est d'écouter Daniel le soir et l'équipe, parce qu'au moins j'ai le résumé du match et ça me suffit largement, j'ai pas perdu mon temps 1h30 devant la téloche. Voilà. Et en fait, je savais exactement ce qui allait se passer. Bon, j'ai perdu au loto sportif malgré tout. C'est dommage que moi j'avais mis match nul. Hein. J'avais mis 0-0.
Ah, carrément.
J'ai mis match nul. Donc j'avais encore plus d'espoir. Bon, alors moi en fait, pour dire, alors moi je ne regarde plus l'équipe de France depuis le championnat d'Europe. Je suis déjà bien fait chier. À part le match contre l'Argentine éventuellement, la finale. Bon, enfin, on est quand même champion. Alors je vois pas. Il y en a sûrement qui vont traiter tous les noms, mais s'il n'y a pas l'avant, on n'est pas champion, hein.
Oui.
Ah oui, merci, hein, Daniel. T'es d'accord, hein. Oui. Donc, moi, de toute façon, alors, je me suis dit que tant que Deschamps serait à la tête de l'équipe de France, j'arrêterais de regarder. Voilà, ça c'est clair. Alors, j'ai rien contre le joueur, rien contre le bonhomme, mais en tant qu'entraîneur, moi, ça me plaît pas. Alors, après, je vais demander également à Daniel, est-ce que ça vient de l'entraîneur simplement, ou est-ce que ça vient de la qualité de nos joueurs? Parce que la meilleure équipe, la meilleure équipe en France à l'heure actuelle, c'est le PSG, et il n'y a pas un Français.
Non, mais Didier, quand bien même, oui. Je vais te dire, avec le nombre de joueurs que t'as, tu pourrais largement proposer une équipe séduisante avec les mecs que t'as en France quand même. Alors certes, ce soir il en manquait, mais bon, mais je suis désolé.
Daniel, c'est aussi Didier, c'est aussi la qualité d'un sélectionneur de savoir associer les joueurs.
Évidemment.
Et qu'est-ce qui marche dans le football? C'est les doublettes. C'est les deux mecs sur les côtés. Quand tu as Lucas Digne et Matuidi sur le même côté, qu'est-ce que tu peux attendre vraiment offensivement d'un côté gauche comme ce soir?
Tu peux attendre de bien défensivement qu'on soit
assez solide. Ouais. Offensivement, c'est difficile d'aller créer des choses.
Ah, quand tu joues au milieu, ce soir avec comme joueur, on va dire le plus créatif, Tolisso.
Ouais.
Qu'à côté de lui, t'as Sissoko, Matuidi, Kanté, qui sont des soldats exemplaires. Vraiment, c'est des mecs. En plus, tu vois, c'est des gars. Au vu de leur carrière, de ce qu'ils font quand ils jouent en club, moi, c'est pas des mecs que j'ai envie de critiquer, quoi. Parce que Matuidi, c'est un soldat exemplaire. Parce que Sissoko, bah, c'est un mec qui répond toujours présent, qui donne le max de ce qu'il a à donner. Kanté, on n'en parle même pas.
Daniel, excuse-moi. Deschamps s'exprime. On va écouter au moins ses premières réponses. Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France.
Ça l'a été, mais on a été à la hauteur à ce niveau-là. Et puis après, même si c'est resté relativement fermé sur la première mi-temps où on a eu deux petites occasions, on en a eu un peu plus évidemment dans la deuxième où on aurait pu se mettre à l'abri en marquant un deuxième but, mais face à cette équipe islandaise. Chez elle, avec son jeu direct, déviation, beaucoup de densité.
Ah bon?
On a été très très solide parce qu'on leur a laissé aucune occasion. Donc
voilà.
C'est un match d'hommes ce soir et l'ensemble du groupe a bien répondu. Les joueurs qui sont rentrés aussi ont apporté. Donc c'est une victoire très importante pour nous ici avant de penser au match de lundi face à la Turquie.
Didier Deschamps, le sélectionneur d'équipe de France en direct en conférence de presse après la victoire des Bleus en Islande 1-0. Question en islandais, bien sûr. Daniel.
Pour nous aussi, c'était très dur. Nous aussi, on s'est fait chier. Pourtant, on était sur le terrain. Donc, comme c'était les champions du monde, on voulait les regarder jouer. Mais ils nous ont rien montré, là. On a fait une fête bête, là. On a concédé un péno, et puis voilà.
Voilà donc, on a les déclarations françaises et islandaises, remasterisées par Daniel, bien sûr.
Ah, mais Daniel a raison.
Merci Didier d'avoir appelé au 32-16. Excellent soirée.
Juste une chose. Juste
très vite,
chose.
Vas-y, Ludo.
Très vite. La dernière fois que je me suis régalé, Daniel ne va pas me contredire, hein, 84, 82, ah oui, 86. Hein.
T'imagines, 35 ans.
Ouais. Ah ouais, moi, j'ai 60 barreaux, mais alors, il y a eu un petit peu dans les années 90, je crois, là, où on avait une équipe qui était pas mal. Mais vraiment, vraiment le gros pied, c'est, j'irais Platini, Tigana. Hein. Je m'excuse, mais bon.
Et ouais.
Depuis, il n'y a rien, hein, c'est le néant.
Ok, merci Didier, excellent soirée à toi, Ludo.
Comme ça, et Daniel, bravo.
Merci beaucoup Didier, à bientôt.
Merci Daniel,
au revoir. Vas-y Ludo.
Vous avez pris que des pros Daniel.
En fait, c'est des anti-Deschamps et des pros Daniel. C'est un peu ça.
J'allais forcément aussi dans le sens de Daniel. Les joueurs que tu as cités, bien sûr que c'est des très bons joueurs. Matuidi est un excellent joueur. Sissoko a été.
Mais tu préférais que c'est un très bon.
Mais c'est la manière dont on les utilise. C'est surtout ça, moi.
Non, mais tu peux pas mettre ensemble Matuidi, Sissoko, Kanté. C'est trop.
Pas tous en même temps.
C'est trop, mais tu dois bien trouver des joueurs créatifs dans notre football. Genre, c'est pas possible, quoi.
Bah, quand tu vois Griezmann, qui est déjà pas à son meilleur état de forme, c'est au niveau confiance.
Je crois qu'il est perdu, Griezmann.
La jauge n'est pas au max non plus.
Hey.
Tu le vois, et ben, bizarrement, quand Ben Yedder rentre.
En fait, dans ce match, on a juste envisagé que Coman déborderait, ouais, ferait éclater la défense sur son côté.
Ce que fait Mbappé d'habitude. Voilà.
Et effectivement, tu as raison de le dire. Quand Ben Yedder rentre,
il y a une complicité technique tout de suite qui se met en place.
La plus belle action du match, c'est l'échange de Ben Yedder, la remise de Griezmann.
Bien sûr.
Très belle remise de Griezmann. J'insiste parce que c'est la seule action qui dans ce match m'a procuré du plaisir. La remise, alors qu'on s'attend à ce qu'il la donne de l'autre côté. Bim, il la recroise, il lui redonne. Bon, ça finit pas en but.
Il y a la belle action de Coman avec le centre en retrait où Matuidi touche le poteau aussi, qui est une très belle action.
Ouais, mais je préfère l'autre. L'autre, c'est parce que j'adore
Griezmann. Il a besoin d'une relation technique.
Et Ben Yedder termine pas, mais voilà, là on a vu. Ah tiens, Ben Yedder qui est un très beau joueur, fin, technique, échange avec hop, bim bim.
Et après, pour dédouaner un peu Deschamps aussi, c'est nos joueurs de côté. Enfin, c'est pas de la faute à Deschamps s'ils savent pas à un moment donné faire un centre.
Notamment en grande difficulté.
Ils allaient nous attendre.
Il a jamais été très bon.
Il y a Lucadine qui a fait deux très beaux centres en retrait. Ça, il faut le noter. Mais sur le reste, le centre en retrait pour Griezmann qui frappe pied gauche dans les mains du gardien.
Ah oui.
Et il y en avait un deuxième, je sais plus lequel. Mais en tout cas, sur le pourcentage, on savait que les Islandais allaient nous attendre forcément dans l'axe. Ils savent que nos points forts et nos joueurs ont tendance à combiner dans l'axe. Eh ben forcément, les côtés ont été beaucoup plus libérés. Et force est de constater qu'on a au moins 85% de déchets sur tous nos centres.
Nous aussi, Ludo, Daniel, on s'est un peu massacré sur Direct Studio. On nous reproche de pas assez goûter le plaisir d'une victoire, d'une finale lundi soir face à la Turquie.
Non, je peux pas goûter.
Gagner en Islande, beaucoup sont cassés les dents, on a gagné, c'est le score.
J'aimerais bien que le mec appelle et m'explique son plaisir.
Pascal,
justement. Son plaisir.
Pascal, au 32-16, on n'est pas d'accord avec nous.
On respecte.
Salut Pascal.
On n'a pas été d'accord.
Juste qu'ils me disent le plaisir, en fait.
Vas-y Pascal, est-ce que t'as pris du plaisir ou est-ce que pour toi, effectivement, l'essentiel est assuré l'essentiel, tu veux rien de plus.
Voilà, d'accord, mais pourquoi absolument mettre le plaisir en avant? Je m'explique. Le foot, c'est un sport. On parle tout le temps de spectacle, mais moi je m'excuse, le foot c'est pas un spectacle, c'est un sport. Donc un sport qui peut être spectaculaire, et s'il est spectaculaire, tant mieux, mais c'est pas le but. C'est-à-dire que Didier Deschamps, Daniel Riolo et moi-même, on est de la même génération. Je vous écoute depuis très longtemps, depuis Nice Nice, je vous écoute très souvent, en plus je vous aime beaucoup. Pourtant, moi je suis souvent en désaccord avec Daniel Riolo, et pourtant on a vécu les mêmes choses au même moment de notre vie. On est des supporters du PSG tous les deux, on a vécu les mêmes événements, les mêmes traumatismes, les mêmes victoires, les mêmes défaites. Et justement, je voudrais revenir à le foot tel qu'il était un peu avant, juste pour dire quelque chose de très important dans l'approche du foot et la conception du foot par rapport à des jeunes d'aujourd'hui qui aiment autant le foot mais qui le vivent différemment.
Pascal, oui. T'as une bonne culture foot, est-ce que on peut échanger deux secondes, est-ce que tu me permets de te poser deux trois questions?
Je t'en prie.
T'aimes bien le basket?
En fait, je vous entends, mais pas très fort, quoi.
Est-ce que tu aimes bien le basket?
Non, pas vraiment, non.
D'accord. Est-ce que tu aimes bien le tennis?
Je l'aime plus. J'ai aimé, moi, mais j'aime plus. Non, je mets ça
quels sont les 2-3 joueurs que tu aimais en tennis?
En tennis?
Ouais, 2-3 joueurs qui t'ont marqué.
Qui m'ont marqué. Bon, tu me poses une question, je m'attendais pas à ça parce que le tennis, je m'en fous un peu.
Ah bon, bah alors autre chose. Non, mais dis-moi, à part le foot, quel autre sport?
Pascal, excuse-moi, si tu peux éloigner légèrement ton téléphone de ta bouche parce qu'après, ouais, lui, tu es collé à ton téléphone.
On n'entend pas bien en fait. Ouais.
Vas-y, Pascal.
Quel autre sport, à part le foot, t'aimes bien?
Mais j'aime un peu tous les sports, mais c'est vraiment le foot que j'aime. Et j'appelle d'ailleurs pour parler de foot, c'est une émission de foot.
Non, mais d'accord, mais c'est parce que je veux.
Enfin, Daniel peut t'emmener quelque part.
Vas-y, Daniel. On peut parler d'autres. Non, mais est-ce qu'il y a d'autres sports à part le foot? Sinon, on parle foot sans problème.
Non, mais je suis pas.
Bon, alors, quels sont les trois plus grands joueurs de foot pour toi? Les trois plus grands joueurs de foot que tu as vu
Platini.
Jouer.
Ok. Après. Plus spectaculaire, tu vois. Michel Platini.
Après.
Après, on arrive dans des choses qui sont absolument personnelles par rapport à mon vécu du foot. J'adore Safet Sozic, ouais. J'adore Mustapha Dalep.
D'accord. Donc en fait, tu m'as cité que des joueurs spectaculaires.
Michel Platini était justement extrêmement efficace, pas forcément hyper spectaculaire.
C'est Platini n'est pas spectaculaire.
Il adorait Maradona parce que lui était spectaculaire.
Non. Bon, ça va. Si Platini n'est pas spectaculaire, ça veut dire que tu as une très haute notion du spectacle. Gardée, mais comme tu as cité Sozic,
Platini partait pas du milieu de terrain à dribbler 10 personnes. Ah,
d'accord, y a pas de problème. Non, mais éliminons Platini, mais tu as quand même cité Maradona, ça fait Sozic.
Un joueur qui sur une grande compétition est capable de marquer pied gauche, pied droit et tête.
Oui, c'est pas grave. Il n'est pas spectaculaire Platini. Quand il fait ouverture dans les pieds à 40 mètres, il n'est pas spectaculaire ou non, mais c'est pas grave, d'accord. Mais enfin, bon, toujours est-il que les mecs que tu m'as cités sont des mecs spectaculaires. Est-ce que tu peux me citer 3 matchs qui ont marqué ta vie?
Alors, le match qui a peut-être le plus marqué ma vie, c'est très bizarre parce que j'avais 10 ans, je me suis retrouvé par hasard dessus. C'était Brésil-URSS en 1982. Ensuite, PSG-Saint-Etienne, la première Coupe de France, et puis la suivante.
Là, ok, donc le Brésil-URSS dont tu me parles, c'est bien celui où il y a la combinaison avec le ballon qui passe entre les jambes et Eder reprend du gauche, pleine lucarne?
Ouais, bien sûr.
Ouais, c'est celui-là, ouais. Avec Socrates, ouais. Et tout, d'accord. Donc encore un grand match spectaculaire, parce que ce jour-là, je peux t'assurer que le Brésil de 82, il avait été extraordinaire, même si le gardien brésilien avait fait une toile monumentale, là, Walmir Pérez,
oui,
tu te souviens.
Voilà.
Ok, donc un match extrêmement spectaculaire. Donc en fait, t'aimes le spectacle.
Non, oui, mais
d'accord.
Tout le monde aime le spectacle. Jamais vu quelqu'un dire que j'aime pas le spectacle.
Eh ben alors.
Mais quand on parle de foot, c'est pas la priorité. Parce que dans ces cas, la remontada, c'était du spectacle aussi.
Oui, mais ceux dont tu te souviens, Pascal, ceux dont tu te souviens qui marquent ta vie, c'est ça.
C'est ce qui te procure des émotions.
Tu raisonnes en termes comptables. Je veux bien te suivre. Comprendre ce que tu dis. Comprendre ce que tu dis. Mais ce qui marque ta vie, ce qui fait tes souvenirs, ce que tu vas transmettre si tu as des enfants qui aiment le sport, ce que tu raconteras comme histoire, ça va être des histoires de spectacle.
Toujours.
Alors toi tu m'as dit que t'aimais pas le basket, mais si te demande à un mec qui aime le basket, il va te citer Michael Jordan. Si te demande à un mec qui aime le tennis, il te citera McEnroe, il te citera Noah, Edberg, Federer, Nadal, il va te citer du spectacle.
Mais de toute façon, ce débat mène nulle part.
Pascal, vas-y.
Ce débat mène nulle part puisque Pascal est d'une certaine école et nous on est d'une autre.
Non, il est de la même école que nous, parce que ce qui l'a marqué, c'est le spectacle. Sa vie.
Moi, je peux comprendre que l'équipe de France ne peut pas jouer bien tout le temps. C'est impossible et le sport ne permet pas ça, d'avoir un haut niveau de performance à chaque fois, à chaque match, d'avoir du spectacle à chaque match. Mais si tu veux, ça fait un peu longtemps que ça dure, Pascal, et c'est pour ça aussi que quelque part on pointe ça un peu de manière récurrente, parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Moi, je suis d'accord avec toi. On peut pas avoir tout le temps de la performance et de la haute performance et du grand spectacle tout le temps. Mais une fois de temps en temps, quand même. Tu vois, et là ça fait vraiment trop longtemps que c'est pas arrivé.
Gagnez maintenant votre pack Ligue des Champions.
Paris Saint-Germain, le FC Bruges vient de tomber. Paris Saint-Germain,
à vous de jouer, vous avez 20 minutes. 20 minutes à partir de maintenant.
Par SMS de 23h20.
À vous de jouer désormais sur RMC. Vous avez 20 minutes précisément pour gagner le pack de matchs du PSG en Ligue des Champions. PSG, FC Bruges, PSG, Galatasaray, bien sûr. Envoyez maintenant foot au 7-32-16, 20 minutes encore.
Non, mais moi je comprends Pascal, mais
je comprends.
Sauf qu'au fond de lui, quand tu réfléchis, même tous les gens qui disent ça, qui disent que le foot, c'est pas ça. Parce que pendant très longtemps, moi en plus, je viens d'une éducation dans le foot italien où il y avait beaucoup ça et tout. Sacchi a révolutionné cet état de pensée, véritablement. Mais, et finalement, quand tu parles avec les gens, tu te dis, mais qu'est-ce qui a marqué ta vie ? Pascal, il cite Daleb et Susic. Daleb et Susic étaient deux joueurs qu'évidemment j'ai adoré, mais qui étaient des mecs qui, pendant 10 matchs, pouvaient être transparents. Ouais. Sauf que ce qu'on se souvient d'eux, pour ceux qui vraiment se souviennent de Susic, c'est le PSG Juve au Parc, où il élimine 4 mecs en même temps, où il fait un festival. Tout le monde peut regarder sur YouTube la deuxième mi-temps, ça fait Susic ce soir-là. C'est extraordinaire. Sauf qu'à côté, je peux t'assurer que parfois, il faisait des matchs, mais tu le voyais pas. Et Daleb, c'était pareil. Mais tout le monde ne se souvient que de ça au final, de ce que procure le plaisir. Dans tous les sports, c'est la même. Les supporters de rugby de l'équipe de France, ils vont se souvenir d'un match. Non, ils vont se souvenir de France All Black 99. Moi, j'ai grandi avec l'idée que France All Black 79, c'était le plus grand match de l'histoire du rugby français. Mais pourquoi ? Parce que le jeu, le plaisir de ce jour-là avait été unique. Alors quand on vient me dire, ouais, c'est le résultat qui compte, machin. Vous mentez. Ceux qui disent ça se mentent à eux-mêmes. Ils se mentent à eux-mêmes et croient qu'ils vont vendre ça. Et même, moi, je vous dis, moi, en Italie, on me bassinait avec le résultat et tout. Mais à chaque fois, je disais, hey, Italie 82. La finale. Grand spectacle. L'Italie fait un match extraordinaire. Et pourtant, Dieu sait que pendant la moitié de la Coupe du Monde, elle ne joue que le béton. Mais ce qui a marqué, c'est ça.
Mais mon histoire personnelle, tend à aller au départ vers ce que dit Pascal, parce que on a été élevé.
Merci Pascal d'ailleurs. Hein. Merci d'avoir appelé.
On a été élevé à ça en France, c'est-à-dire que j'ai été élevé moi dans la culture française du résultat et du on n'encaisse pas avant de mettre. Tu vois ce que je veux dire ?
Bien sûr.
Et quand
la priorité, c'est de pas en prendre.
C'est de pas encaisser avant de. Ouais. En tout cas, c'est de pas prendre de but. Quand je suis parti à l'étranger. Bah, cette mentalité, elle a volé en éclats. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire. Mais force est de constater que quand je suis arrivé en Allemagne, c'était la boulie était en plein essor. Et il y avait cette fameuse finale, Dortmund-Bayern. Et quand je suis arrivé là-bas, bah, c'est vrai que ça a remis en cause un peu ma vision du football parce que eux, ils préféraient perdre 5-1. En essayant de faire des choses, en essayant de faire du jeu, plutôt que de perdre 1-0 en n'ayant rien essayé.
Bien sûr.
Voilà. Et les supporters suivaient là-dedans, et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, le foot allemand s'est transformé, et on est parti sur une industrie plus de spectacle. C'est-à-dire que nous, mon premier match avec Brême, on joue le Borussia Dortmund, mais le grand Borussia Dortmund, hein, avec Lewandowski, Götze, Reus, Gundogan, Hummels, c'est toute la clique, Subotic, et toute la clique.
Le début de l'ère Klopp.
Voilà. Aubameyang venait d'arriver. Donc c'était un tout petit peu après. C'était au milieu de l'ère Klopp. Et on perd 3-0 à la mi-temps. Et moi, c'était mon premier match avec le Werder et je comprenais pas. Les mecs continuaient à attaquer sans relâche. Les deux latéraux montaient des deux côtés. Le 6 se projetait. Et je dis, mais on va prendre une valise. Et je vais vers un dernier. Je me dis, attends,
mais à 3-0, qu'est-ce que vous voulez faire de toute façon?
Mais non, mais tu te dis, on va pas
autant
prendre
charger
7,
la valise, quoi.
En France, t'as 3, tu verrais la baraque. Ben, les mecs me disent, non, on va jouer jusqu'à en mettre un. Et on marque à la 4, on est à 5-0 à la 85e minute. On marque le 5-1, ben pour te dire, le stade s'est levé comme si on avait marqué le but de la
victoire. Mais oui, c'est un spectacle.
Et on est sorti sous les applaudissements quand même, ce qui est assez rare. Alors je dis pas qu'il faut mettre ça en avant, parce que le résultat, c'est aussi important. Mais le foot, ça doit te procurer quand même un minimum d'émotion. Et c'est vrai que l'équipe de France, elle nous crée plus d'émotion depuis.
Qui ne peut pas être que l'émotion
depuis la Coupe du Monde.
Voilà. Qui voit son équipe gagner et qui est prêt à tout pour l'avoir gagné. Ça, j'entends bien ça. Évidemment, quand ça arrive, par exemple, comme le Portugal en 2016, quand j'ai jamais rien gagné. Oui, peu importe la manière. À ce moment-là, évidemment, je peux comprendre que l'émotion bouleverse tout un pays. Ça, oui. Mais pour les autres qui regardent,
Bah, c'est pas ce qu'on retiendra, quoi. On retiendra.
Et puis, ça y est,
ça.
Daniel, on est champion du monde deux fois désormais. Pourquoi pas pour vos autres choses, effectivement, aller vers une autre approche du football, culturel en tout cas, comme en Allemagne. Tiens, j'aime bien sur Direct Studio ce que dit Nîmes 1937. Quand tu regardes le match ce soir, en fait, t'as même plus envie de gagner. Gagner l'Euro, gagner la Coupe du Monde, Deschamps nous pousse à se libérer de l'équipe de France. Perdons l'Euro, mais putain, donnez-nous un quart de finale, une demi-finale avec du foot. Mais on s'en fout du résultat, nous voulons des émissions.
Nico, juste pour revenir. Très vite. J'ai eu la chance de gagner quelques titres.
Tu gagnes en étant beau avec Lille.
Ce que je me remémore, c'est pas les trophées que j'ai sur la cheminée ou les trucs. Mais c'est comment les matchs qu'on a fait, où on a fait des matchs exceptionnels, les 3-4 matchs où on a su sublimer. La finale contre Paris en coupe, on fait un match dégueulasse. Alors certes, j'ai eu la chance de marquer, donc je m'en souviens, mais c'est pas le match qui m'a le plus marqué dans la saison où on est double champion, tu vois ce que je veux dire. C'est pas ce qui restera.
Bien sûr. Allez, on revient dans un instant pour la suite de l'after. On va faire l'évaluation avec Ludo Aubragnac, Daniel Riolo. Beaucoup d'appels au 32-16. On va parler d'Olivier Giroud notamment. À tout de suite.
RMC. L'after foot. Nicolas Jamain.
Oui, l'after est là jusqu'à minuit avec Ludovic Aubragnac, avec Daniel Riolo. Le 32-16 est ouvert. Énormément d'appels ce soir après la victoire de l'équipe de France. Le débat éternel. Faut-il gagner ou faut-il être beau? Mais on peut gagner en étant beau. Évidemment, ça c'est possible aussi.
Qu'est-ce qui l'empêche?
Alors, effectivement, les gars, tu l'as dit tout à l'heure dans le préambule, dans ces trois points, il faut gagner. Pour gagner, pour bien jouer, il faut une belle équipe en face aussi. C'était verrouillé, les gars. C'était verrouillé, 28% de possession l'Islande.
Ah, tu as le droit aussi.
C'est comme au tennis, Daniel, quand tu joues avec un mec qui joue pas. C'est pas forcément bon non plus.
Tu sais, souvent, on parle d'opposition de style hein, entre le mec qui défend et l'autre qui attaque. Le problème, c'est que la France étant incapable d'attaquer et n'ayant aucune animation, même face à une équipe effectivement principalement défensive, tu n'arrives pas à attaquer. Il faut être deux pour avoir un grand match. Mais tu peux, face à une équipe qui joue pas bien, toi, développer ton jeu.
Mais face à une équipe qui est regroupée, il faut aussi des gens qui des idées autres que des idées normales, on va dire, des créateurs, tout simplement. C'est des gens qui, à un moment donné, ont la lumière de trouver la passe, le décalage. Ouais. Alors, dans l'équipe de France de ce soir, on en a qu'un.
On va faire l'évaluation.
Il est capable de faire ça, donc il peut pas se faire les passes à lui-même. Hein.
Tu penses à Griezmann?
Bah, bien évidemment.
Évidemment. Tiens, d'abord les résultats, messieurs de la soirée, c'est important. La défaite, donc, dans le groupe A de l'Angleterre sur la pelouse des Tchèques, 2-1. Kane avait ouvert le score. Brabec et Ondrasek ont permis aux Tchèques de s'imposer 0-0 entre le Monténégro et la Bulgarie. Bulgarie, adversaire mardi de l'Angleterre au classement. L'Angleterre, 12 points à égalité avec la République Tchèque. Le Kosovo, toujours surprenant, 3e et un match en moins pour le Kosovo. Parmi les autres match de la soirée, la victoire du Portugal 3-0 face au Luxembourg. Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, 94e but en sélection, 699e but en carrière, toutes compétitions confondues. Et Gonzalo Guedes à la 89e. L'Ukraine se rapproche de la qualification, premier de son groupe, du groupe du Portugal, le groupe B. Victoire 2-0 face à la Lituanie grâce à un doublé de Malinovski. Voilà. Tiens, Daniel, ton île, ta sélection.
Ils ont perdu 2-1 contre.
Non, deux partout, ils ont égalisé, Daniel.
Contre le Suriname?
Ouais.
Sans déconner.
Ils ont égalisé contre le Suriname.
Oh là 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 là.
Deux buts partout pour comment ça s'appelle?
Saint-Vincent les Grenadines.
Voilà, deux partout.
Ah génial.
Je pense qu'on fait la fête là-bas ce soir.
Ah mais non, mais j'avais lâché.
T'es en lien avec le sélectionneur? T'as pas un numéro de téléphone? Faudrait qu'on les appelle un jour d'ailleurs, tiens, pote marrant.
C'est Cornelius Stewart qui avait marqué le but pour Saint-Vincent les Grenadines. Mais le 2-2, claque, en fait, je ne me regarde pas,
genre, je sais que c'est Stewart qui a marqué le but de ça.
T'aimerais pas t'appeler Cornelius Stewart?
Et pour le Suriname, les deux buts ont été marqués par le même joueur, Marcel Benk.
Hey, Jimmy Floyd?
Non, je pense pas. Qui a un cousin, peut-être, mais Jimmy Floyd, j'adorais Jimmy Floyd, Marcel Benk. C'est un joueur extraordinaire, mais maintenant, il doit être assez vieux quand même.
Avant de faire l'évaluation et d'accueillir Julien Laurence pour aller de l'Angleterre, la défaite des Anglais ce soir.
Mais ça, c'est à cause de l'affaire.
Des wags.
Colline contre Rebecca, que ça a fait merder la sélection.
On posera la question à Julien dans un instant. Serge, 32-16. Salut Serge.
Salut à tous. Salut Julien. Salut Daniel. Salut Ludo.
Alors
salut
Julien, je ne connais pas.
Oh, Serge Benhamou. Ah.
Nicolas, je m'appelle.
Nicolas, pardon.
C'est pas grave, Serge. Excuse-moi. Je suis nouveau dans l'after, t'inquiète. Je me formule
pas pour dire Julien. Alors, comme tu as dit Julien, il a peut-être pensé Julien avec
nous. Je voudrais remercier pour l'anecdote de. L'anecdote du 5-1, il était content d'avoir pris 5 buts et d'avoir marqué un but, ça c'est génial. J'adore ce genre d'anecdote, c'est superbe.
Tu voulais parler de Giroud, je crois, Serge.
Ouais. Oui.
Bonne humeur, en tout cas, c'est bien.
Serge, c'est pas moi qui était content, hein, c'est l'ensemble des acteurs et du public qui était là. C'est pas,
non,
c'est
mais,
pas
mais
moi.
C'était une superbe adhésion.
Vas-y, Serge. Moi, venant de France, je peux te dire que je râlais assez.
Vas-y, Serge, sur Giroud.
Ok, c'était juste pour, voilà. Giroud, en fait, depuis qu'il a été en équipe de France en 2012, je crois, la première sélection, c'est en 2012, il a tout le temps été décrié. Il a 97 ou 93 ou 97 sélections, je ne sais plus.
97, je crois.
97 sélections, il a 37 buts. Il n'a pas joué depuis... il a joué 17 minutes, c'est ça,
Bref, où veux-tu en venir?
Tu veux dire, Giroud, vas-y, Serge, tu veux dire quoi sur Giroud?
Ben, je veux dire qu'en fait, c'est un élément essentiel de l'équipe de France.
Ah oui, c'est un élément essentiel.
Non, mais efficace. Je dis ça par rapport aux émissions qu'il y a eu, par exemple, Rotten Regal, qui a eu à 17h, à 18h, je ne sais plus à quelle heure, et qui mettent en doute tout le temps qui mettent en doute le parcours de Giroud et qui se demandent pourquoi.
Serge, je sais pas qui a dit ça parce que je l'ai pas écouté, mais en tout cas je sais ce que Jérôme pense de ça parce que
Rotten Regal.
Mais comme j'ai pas écouté, je peux pas savoir ce qui a été dit, mais je sais ce que Jérôme, parce qu'on en a parlé cette semaine, en pense. Lui a toujours dit que effectivement Giroud était un joueur essentiel de l'équipe de France et louait son parcours et son apport au bleu. La seule réserve, et on avait la même cette semaine quand on en parlait ici dans l'after, c'est de savoir si ne jouant pas du tout, imaginons que ça continue sa situation comme ça jusqu'à la fin de la saison, ça veut dire qu'il ne joue pas du tout, est-ce que Deschamps peut l'emmener à l'Euro? C'était la question qu'on se posait et Jérôme disait, moi je le ferai pas s'il ne joue pas.
Eh bien moi je le ferai.
Ben, pourquoi pas, Serge? Parce qu'effectivement, après tout, le jeu offensif est basé sur le fait que Griezmann soit un joueur complètement libre, profitant du point d'appui Giroud. Effectivement, si Giroud n'est plus là, il faut reconstruire. Déjà que le jeu offensif est brinque-ballant, ça veut dire qu'il faut tout repenser. En fait, ça veut dire même qu'il faut en construire un. Comme il n'y en a pas, ça va être trop compliqué. Donc il faut souhaiter que Giroud joue un peu, qu'éventuellement il change de club cet hiver, même dans un club de première ligue de seconde zone, pour qu'il puisse jouer. Et dans ce cas-là, il a pas du tout envie de revenir en France. Donc qu'il aille jouer ailleurs en Angleterre, même dans un club de seconde zone, pour que il se maintienne en forme. Et là, il ira à l'Euro. Mais s'il joue pas du tout, Serge, avoue que ça, pas jouer du tout, c'est quand même très compliqué.
Ludo, tu penses quoi de ça? On a eu le débat plusieurs fois cette semaine.
Écoute-moi.
Attends, je veux Ludo. Serge, reste avec nous, vas-y Ludo.
Oui.
Moi, je suis assez admiratif de ce que peut faire Olivier Giroud en équipe de France.
On l'est tous, moi aussi.
Après, l'équipe de France, c'est le Graal quand même. T'es tout le temps dans la recherche de la performance,
de l'excellence,
de la performance. Dans quelle équipe européenne aujourd'hui de très haut niveau, t'as ton attaquant vedette qui a joué 17 minutes depuis la dernière trêve internationale? Ça existe.
Alors il a joué 190 minutes avec Chelsea, mais c'est rien sur les 12 matchs.
Je m'en fous pas parce qu'un joueur,
Mais ça marche.
Mais Serge,
Chaniel qui joue, tu gagnes.
En équipe de France, il est performant.
Mais Serge, mais qu'est-ce qui vous dit que si tu remplaçais Giroud par quelqu'un d'autre, ça serait pas aussi performant, voire mieux? Qu'est-ce qui vous dit le contraire? Mais ben voilà, il faut peut-être essayer des choses.
Vous êtes tout le temps.
Non mais tu peux pas essayer,
Serge.
Mais Excuse-moi. Depuis qu'il est en équipe de France, depuis 2012,
il est toujours performant. Il est efficace.
Vous faites des débats pour dire, mais pourquoi Giroud vient en équipe de France? Mais pourquoi Giroud vient en équipe de France? Il marque 37 buts pour 97 sélections, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont fait autant.
Serge,
troisième buteur d'équipe de France.
Il faut être pragmatique aussi.
Serge, on peut être pragmatique.
Là, les gars, en fait, c'est des philosophies qui s'opposent et on ne se mettra jamais d'accord.
Mais à un moment donné, Olivier Giroud, personne ne remet en cause le fait que c'est un garçon admirable, qu'il est, il peut être performant avec l'équipe de France. Mais pardonne-moi, Serge, est-ce un joueur qui joue une grande compétition comme ça va être l'Euro, avec l'intensité des défenses qui vont être mises en place, avec Van Dijk, machin, bidule. Est-ce que tu sais quand même, Serge, que dans le football, pour être bon, faut pouvoir quand même jouer des matchs de compétition de haut niveau régulièrement. Est-ce qu'un joueur qui ne joue pas peut être au top de sa forme? C'est possible ça, Serge, dans le
Allez, Serge, allez, tu conclus.
Usain Bolt qui s'entraîne pas pendant 6 mois. Tu penses qu'il est il est à son meilleur niveau pour gagner une course?
Pour avoir le dernier mot, parce que
vas-y, Serge. Tu
me laisses le dernier mot, c'est gentil. Il a joué que 17 minutes.
Ouais.
On est d'accord.
Et ce soir, accepter le pénalty.
Ludo,
laisse finir, Serge. Vas-y, Serge.
Il a joué 17 minutes. Okay. Alors, il a marqué un pénalty.
Ouais.
C'est un pénalty.
Et le reste?
Il a marqué.
Et le reste? Dis-moi, ce soir. Et le reste? Dis-moi le reste.
Il n'a pas défendu. Il ne s'est pas donné comme un chien.
Mais ça n'enlève rien. Je ne conteste pas ça, Serge.
Et ok, donc, les gars.
Ça veut dire que
Serge, je te dis simplement,
il faut être un grand joueur.
Serge, il faut jouer.
Voilà.
C'est tout.
Merci, Serge. D'avoir
Il faut jouer.
Il y aura encore ce débat. Il y a France-Turquie lundi soir au Stade de France. On va reparler de Giroud, mais pas que évidemment.
Donc moi, si Olivier Giroud doit prendre aussi ses responsabilités. Il doit au mois de janvier prendre une décision pour jouer. Et à partir de ce moment-là, il y a aucune contestation.
Excellente soirée, Serge. On revient dans un instant. On a beaucoup de choses à dire encore une fois. L'Angleterre, Julien Laurence vous attend, bien sûr, pour la défaite des Anglais face à la République tchèque. On va parler rapidement de Lyon et de Marseille aussi. À tout de suite dans l'After.
RMC. L'After Foot. Nicolas Jamain.
Et oui, l'After jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, avec Ludovic Obraniak. On est ensemble jusqu'à minuit. Voilà pour l'équipe de France, messieurs. On va passer à l'équipe
qui s'était
d'Angleterre. Qui s'est.
Ah pardon, j'ai pas vu que...
Oui, Daniel, t'es à l'antenne.
Pardon.
On n'était pas encore sur BFM TV.
Non, on était
à l'arrestation du Ligonnès. Allez, on avance, on n'a pas beaucoup de temps. Il y a pas mal d'actu et de choses à commenter. On est avec Julien Laurent. Salut Julien.
Incroyable affaire.
Salut Nico, salut à tous.
Salut Julien.
C'est autre chose que les WAG. Rebecca, du pont de Ligonnès.
Ouais,
En tout cas, c'est chez toi qu'il était planqué, hein, visiblement.
T'aurais pu le trouver, Julien. T'es journaliste.
Ouais, effectivement, il est passé entre les mailles du filet chez moi aussi.
Peut-être que tu l'as croisé.
Peut-être.
Ouais.
On le saura jamais. C'est Damien Comolli quand même. Hein.
Ah oui, on l'a dit.
Vrai, ça, on l'a dit. Il ressemble beaucoup à Damien Comolli, c'est vrai.
Alors,
plus maintenant, parce qu'il s'est fait opérer de la tronche. Donc.
Julien, défaite de l'Angleterre ce soir. Elle menait 1-0 grâce à Harry Kane sur penalty à la 5e. Égalisation Brabec pour les Tchèques à la 9e. But de la victoire d'Ondrášek à la 85e minute de jeu. Logique, pas logique?
Logique, très décevante performance de la part de cette équipe d'Angleterre qui pourtant, on l'a dit, hein, sous Southgate, avait des bons résultats entre la Coupe du Monde, la Nations League aussi. Et là, ce soir, c'était un non-match, comme ça leur arrive très peu finalement ces derniers mois, mais c'est vrai qu'ils sont passés complètement au travers, même s'ils avaient ouvert le score, tu l'as dit, sur un pénalty d'Harry Kane. Après, ça a été une bonne bouillie anglaise, aucun contrôle sur la rencontre, ils ont été... un porridge, effectivement, Daniel, j'aime beaucoup ça. Un gros porridge anglais où ils ont été bouffés au milieu de terrain par des Tchèques qui sont quand même loin d'être des cadors. Faut le dire, ils ont fait un bon match ce soir collectivement les Tchèques, mais c'est quand même une équipe très moyenne. Mais côté anglais, individuellement, collectivement, on a rien vu, notamment au milieu de terrain, comme je l'ai dit, où Henderson et Rice ont été bouffés du début à la fin. Même si en seconde période, ils ont eu quelques occasions, c'était un petit peu mieux. Au final, je pense que, comme Gareth Southgate l'a dit à la télévision anglaise après le match, la défaite est sûrement méritée parce qu'ils sont vraiment passés à travers. Et des joueurs comme Danny Rose, par exemple, qui est en grande difficulté avec Tottenham déjà, et qui ce soir a fait un match catastrophique, le milieu de terrain aussi, et puis cette défense hein, qui continue à inquiéter, à prendre des buts et à faire des erreurs assez graves quand même et assez énormes.
Mason Mount, titulaire pour la première fois de sa carrière en équipe nationale, tu l'as trouvé comment ?
Je l'ai trouvé encore une fois très décevant, un peu à l'image de son équipe finalement. C'était difficile pour n'importe qui de se mettre en évidence ce soir parce qu'ils ont tous mal joué. Mais je sais pas s'il était vraiment prêt pour débuter un match pareil à l'extérieur, même contre une équipe comme je l'ai dit assez moyenne, mais quand même avec un impact physique, avec une organisation certaine. Je pense pas qu'il était prêt pour un match pareil. Il faut pas oublier quand même que c'est sa première saison en Première Ligue, qu'il a fait 8 matchs de Première Ligue, et que c'est un petit peu tôt peut-être, et qu'on lui a demandé un petit peu beaucoup d'être titulaire ce soir et d'organiser le jeu de cette équipe.
Sancho était là également, une équipe jeune hein, ce soir encore une fois, hein, l'équipe d'Angleterre face à la République tchèque. Bon, évidemment, rien de grave, ils sont encore premiers, co-leaders avec les Tchèques, 12 points. Ils jouent la Bulgarie mardi soir.
Mardi soir,
effectivement. Pour
un match
ouais, vas-y.
Dont on a parlé hier déjà, où il y a déjà eu une polémique sur l'ambiance qu'il y a et ouais. les Anglais qui peut-être, comme on l'a dit hier, se préparent déjà à une ambiance assez hostile, notamment peut-être avec des chants racistes. Le problème que j'ai ce soir avec cette équipe, et vous connaissez le peu de considération que j'ai pour Gareth Southgate, que je trouve vraiment pas très bon, mais ce soir j'ai rien vu de la part de Southgate non plus. Même quand son équipe est dominée, à aucun moment il a essayé de changer quelque chose. En première mi-temps il a tactiquement essayé de changer un tout petit peu, ça n'a eu aucun impact sur le match, aucune évolution pour son équipe. Et moi je suis désolé, plus je regarde cette équipe d'Angleterre et plus j'ai du mal à trouver que Southgate est l'homme de la situation, ou avec un groupe quand même talentueux, qu'il fait les choses qu'il fasse pour faire avancer cette équipe.
Voilà, merci Julien. Merci à toi.
Merci à vous.
On se retrouve dimanche soir et lundi également pour le débrief de Bulgarie. Angleterre sous haute tension en tout cas.
Il s'était remarié.
Incroyable. Ça, c'est l'autre info de la soirée.
Incroyable.
Xavier Dupont de Ligonnès s'était remarié. Il était sûrement parti en week-end en Écosse avec sa nouvelle femme.
Donc la femme n'était pas au courant de qui il était.
Ah, ça, on ne sait pas.
Peut-être.
Je sais pas quoi.
J'espère que non.
Allez, on avance. On avance. Messieurs, rapidement. Lyon, dernières infos ce soir. Blanc Juninho. Nouvelle discussion, nouvelle rencontre entre le Français et le Brésilien. Très constructive. Rapprochement, discussion approfondie. Et les échanges portent maintenant sur la constitution du staff de Laurent Blanc. S'il prend Lyon, Blanc devrait être accompagné, ce qu'on dit depuis une semaine, de Franck Passy, de Philippe Lambert, son préparateur physique de toujours en bleu, et à Paris, libre depuis son départ du Racing Club de Lens, qui devrait être de l'aventure aussi. Autre point à régler, pour l'instant, je ne sais pas si c'est un point d'achoppement, mais il faut en parler, le rôle de Jared Baticle, adjoint incontournable de l'Olympique Lyonnais depuis plusieurs saisons.
Non, mais tu peux plus. Ils ont déjà fait la connerie une fois de laisser Baticle avec Silvinho. C'est quitte à changer, change tout. Dire, tu peux pas mettre un nouvel entraîneur avec le staff de l'ancien entraîneur. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose.
Soit oui, tu changes, mais il y a une certaine tradition.
Il n'y a pas un club normal qui fonctionne comme ça.
Paulo Souza, il arrive à Bordeaux, il a six adjoints avec lui.
Tu bosses avec un staff aujourd'hui, tu bosses pas avec les mecs en place.
Pareil.
Ça, c'est le foot d'il y a 20 ans.
Et bien sûr.
C'est pas possible, ça. C'est.
Ben ils l'ont fait quand Sylvain est arrivé.
Oui, mais c'est probablement une très très mauvaise chose qui a été faite à ce moment-là.
Voilà pour Laurent Blanc et Juninho, la rencontre ce soir. Déclaration, on en parlera demain dans l'after.
Ils sont en train de nous faire croire qu'il rencontre d'autres gens qui discutent.
Non, là,
alors
rien,
que l'unique priori, solution, c'est Blanc.
Là, ça y est,
juste l'adjoint, parce qu'effectivement, à Lyon, tout le monde sait que Blanc tout seul, ça fait peur à tout le monde.
Il y a une rencontre avec Rudy Garcia aussi.
Un full oui.
Non,
c'est
pas un full.
Non, on sait qu'il
y a une rencontre avec Rudy Garcia.
Mais tu sais, parfois tu rencontres plein de gens quand tu es embauché pour la forme, et à la fin, tu as ton idée de départ et tu tranches.
Non, la seule question, c'est avec qui Blanc doit venir.
J'en démords pas. Je sais pas où ils en sont. Je sais pas où ils en sont au niveau de l'Amérique du Sud, mais j'aurais bien aimé voir Gallardo. Moi.
Non, Gallardo, il est bien avec River Plate. Il rêve la sélection.
Il a fait le tour maintenant.
Il a tout mieux. Mais Gallardo serait une super idée, bien sûr. Peut-être un peu cher Gallardo aussi maintenant, tu sais. Marseille, rapidement, Andrés Villas-Boas.
Je crois que Laurent Blanc, il est pas cher, toi.
Bon, il a pris 22 millions. Maintenant, il est moins gourmand.
Oui, t'as raison.
Attends. 22 millions d'euros. André Villas-Boas, invité dans le journal de France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Déclaration. À la question, l'OM va-t-il recruter cet hiver? Il répond, le problème, c'est qu'on se trouve.
Même quand on a beaucoup d'argent, il ne faut pas baisser ses prétentions, Nico.
Le problème.
Toi, t'es pas fait pour avoir du blé, toi.
Le problème, c'est qu'on se. J'en veux pas plus. Je vis très bien avec ce que j'ai.
Tu pourras
et c'est pas
avoir,
énorme.
Tu pourras pas.
Le problème,
tu pourras pas avoir ta maison.
Les gars, je bosse, là, rapidement, Marseille, déclaration, André Villas-Boas.
Oui, bon, il a dit
sur France 3, le problème, c'est qu'on se trouve. À la question, l'OM va-t-il recruter cet hiver? Le problème, c'est qu'on se trouve dans une situation presque calamiteuse du point de vue financier et on doit attendre un peu pour faire des investissements.
Nouveau, ça va être, Nico, voyons.
Des recrues en janvier pour l'interrogation.
Pour ça.
Je ne pense pas des recrues en janvier, mais il n'y a que le propriétaire qui peut répondre à cette question. Mais selon mes informations que j'ai actuellement, je ne pense pas qu'il y aura des recrues.
Voilà. On le savait, ça, Nico. Pas t'énerver pour ça, voyons.
Je m'énerve pas.
Si t'étais un peu tendu sur.
Non, mais c'est clair, c'est important pour les supporters marseillais qui nous écoutent également.
Je pense que les supporters marseillais savent qu'il y a plus
de d'argent que.
Ils ont tout claqué. Tout a été claqué.
Profite, les Bordelais sont dans le premier tiers Sois heureux de.
Bah, il va passer le week-end au Cap Ferret avec des temps d'avance
sur le 18e.
C'est tout tendu.
Rapidement, monsieur, également, à Monaco, une info. Selon le quotidien sérieux, quotidien brésilien Globo, Monaco tente de recruter le jeune Brésilien Jean-Pierre. 21 ans.
Jean-Pierre.
Avec un Y.
Franchement, ça peut pas faire sérieux comme genre de foot.
Ah, c'est pour ça que je t'en parle, en fait. Après Jean-Rocas à Lyon,
Jean-Pierre.
Encore que.
Jean-Rocas à Lyon, Jean-Pierre à Monaco.
Le plus improbable des noms est très bon en ce moment. Arnaud de Préville, c'est tellement pas fouteux.
Parce qu'on parlait de Bordeaux.
De Préville, c'est, tu sais, c'est un nom de collège presque. Ouais, tu vois, il y a des noms de collège.
Ça fait pas.
C'est où?
T'as dit quoi, Arnaud de Préville?
Comment je l'appelais?
Tu l'appelais Arnaud?
Tu l'as pas entendu?
Oui, il l'a dit Arnaud.
Ah bon? Pardon.
C'est pas. Tu vois à tel point que. Ça fait très collège.
Nicolas de Préville.
Je suis au collège Nicolas de Préville.
Bon, bref, de Préville, c'est.
Arnaud de Préville, c'est plus chiant.
Non, mais c'est genre dans les.
Nicolas,
ça va mieux. Tu joues dans les choristes, mais t'es pas footballeur.
Mais Maurice Bellet te rappelle?
C'est vrai.
T'es dans quel collège? Je suis au collège Maurice Bellet.
Ouais, c'est des noms de collège. Poète.
T'es poète.
Poète,
Guillaume Apollinaire, Maurice Bellet, de Préville.
Joachim Dubellet.
Le dormeur du Val.
Mais jamais de la vie, t'es joueur de foot. À un moment.
Voilà, on va arrêter là-dessus ce soir, messieurs, merci.
Au Bragnac, t'es joueur de foot.
Ah oui.
Ludo aussi, Ludo, il faut dire Ludo. Ludo, Bragnac, t'es joueur de foot. Tu peux même aller en Allemagne. Là, ça claque un peu.
Bragnac.
Voilà, là, ça claque.
Tu vois,
Gnac. Ça sent.
Ludo, mais Ludovic, au Bragnac.
Est-ce que tu penses que Bribois, c'est. Ouais, Bribois, c'est.
Nico Jamin, t'es joueur de rugby. Mais pas joueur de foot.
N'importe quoi, ça n'a
aucun joueur de rugby, mais pas joueur de foot.
Tu fais du marathon.
Si, t'es du sud-ouest, t'es joueur de rugby.
D'accord.
Et en pro des deux, en fédéral, à la limite.
L'after revient demain soir, bien sûr, avec Ludovic Bragnac et le retour de McCarty. Voilà, international irlandais.
McCarty, les joueurs de rugby irlandais.
Voilà, c'est ça. Voilà. Demi d'ouverture en équipe d'Irlande. À demain. Voilà.
Ciao.
Avec Ludo et Jonathan. Excellente soirée à vous.
RMC. L'Afterfoot.
The way things are isn't the way they have to be.
But knowing what to challenge and how to change it isn't always clear.
That's why independent journalism has never mattered more.
When we are free to follow any lead
and question any authority,
we can confront the status quo,
uncover vital alternatives,
and bring clarity to the world's most complex issues.
We can help our readers understand the world.
So together we can fight for a better one. Hope is power.
And with your support,
you'll always find it
at The Guardian.